was a full moon in the middle of June, in the summer of 59. I was young and cool and shot a bad game of pool and hustled all the chumps I could find.
18h passées d'une minute et d'une poignée de secondes sur les ondes de Radio Larzac. Nous sommes toujours en direct de la cavalerie. Nous prenons l'antenne pour notre dernier plateau consacré aux mobilités. Et c'est Monsieur Funk Billy, alias William, qui va animer. Donc c'est pour ça qu'on écoute le morceau Sport de 19 Road. Et je te laisse la parole pour officier, William.
Salut les funketeers, ben non c'est pas que pour vous, mais il y a des cyclistes qui aiment faire du funk parce que là on va parler vélo. C'est un peu le sprint final de la journée, une journée très sportive, n'est-ce pas Nico? Tu es là, enfin on est tous là hein, depuis ce matin. Ouais.
Oui.
Très tôt, on était là hier aussi. Donc là on a les deux premiers arrivés de l'étape, c'est Jean-Marie Azaïs et Thomas Verdier. Et on attend Magali qui ne devrait pas tarder. Alors, elle n'est pas venue en vélo. Elle arrive. Elle nous a dit que voilà, elle était un petit peu en retard. Magali Ramadier. Alors, on va peut-être commencer par Jean-Marie parce que tu es arrivé le premier de l'étape quand même. Il faut le dire. Hein, tu es là depuis un petit moment. Tu es référent Voie Verte pour l'association française Voie Verte et Véloroute sur l'Hospitalet du Larzac. Avant de rentrer dans le vif du sujet autour de la Voie Verte et de la V85, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta pratique du vélo?
Alors, le vélo, j'ai découvert, je voyageais à un véhicule motorisé, à moto, et un jour j'ai découvert les vélos solaires. Et les vélos solaires m'ont passionné et puis je crois qu'ils ont changé ma vie parce que les possibilités que ça donne. Et donc ça l'a fait maintenant 11 ans que je roule en vélo solaire. Je suis descendu 3 fois au Maroc, j'ai fait le Tour de France partout, bon, je me baladais beaucoup en vélo solaire. Et ce qu'il y a d'important quand on roule en vélo solaire, c'est la gestion des ressources. C'est-à-dire on a une batterie avec un panneau solaire. On consomme 8 à 10 watts du kilomètre. Et en fonction de l'état de la batterie, ben on sait ce qu'on peut faire. Alors, bien souvent, on a envie de mettre de la puissance. Mais si on veut aller atteindre notre but, ben des fois, c'est... Donc, et depuis que j'ai découvert, on peut dire, cette gestion de la ressource dans les mobilités douces, ça a même changé ma vie. Voilà.
Merci Jean-Marie. Thomas Verdier. Alors Thomas Verdier, ce matin avec Sandrine Pierre du point accueil tourisme de la cavalerie, on a parlé gravel. Je crois que c'est un sport, mais non, on peut dire un sport en part entière. Enfin, c'est du vélo, oui. Effectivement, mais du vélo gravel que tu pratiques. Et d'ailleurs, tu es un futur entrepreneur.
Tout à fait.
Donc, quelle est toi ta pratique et si tu peux te présenter en quelques mots?
Donc Thomas Verdier, pratiquant du vélo depuis tout pitchou, j'ai commencé au SOM à Millau, donc au club de Millau. J'ai fait tous les vélos, j'ai fait de la route, du VTT, du gravel. J'ai ensuite travaillé dans le vélo côté commercial, voilà, où je vendais des produits de vélo, des casques, des accessoires. Et puis j'ai eu envie de m'installer, de créer ma propre entreprise pour transmettre ma passion du vélo et des bons produits locaux. Donc l'idée, ce sera faire des tours autour du Larzac et du Viala du Tarn. La boîte sera le goût du vélo. Donc pratiquant beaucoup gravel ces derniers temps, effectivement, puisque j'ai fait du VTT, de la route en compétition. J'ai vu beaucoup d'accidents sur la route, malheureusement. C'est aussi pour ça qu'on parle des mobilités. C'est souvent compliqué de partager la route. Et donc le gravel, c'est beaucoup de gens qui sont sortis des routes pour aller sur les chemins, sur des voies un peu moins empruntées. Et on a la chance d'avoir quand même un beau territoire gravel. Le Larzac est classé territoire gravel. Il y a une coupe du monde, une manche de la coupe du monde gravel qui est sur le Larzac. Donc c'est quelque chose à développer.
On en reparlera plus tard. Alors justement, merci pour la liaison. Les difficultés entre les moteurs, les véhicules à moteur, les voitures, les camions, tout ça, et les cyclistes, d'où les voies vertes?
Et bien sûr. Et en plus, on a la chance d'avoir une voie verte qui traverse le Larzac. Sauf que, on peut dire, ça a été initié au plan national de quadriller toute la France avec des voies vertes. Donc on est sur une route quand même qui part de Montauban à Arles, une route ancestrale qui passe, qui traverse tout le département. Donc c'est un peu là-dessus qu'elle s'est calquée, cette V85. Elle a été, on peut dire, elle part de Albi, Montauban, elle longe le Tarn, elle arrive à Sainte-Afrique. Sainte-Afrique, elle monte par Tournemire, le Viala du Pas-de-Joux. Et à l'hospitalier du Larzac, il y a une voie ferrée qui s'appelle Tournemire le Vigan. Et cette voie ferrée, elle doit être aménagée. Et là, la V85 s'arrêtait, sans aucune explication.
Alors, juste avant, parce que la V85, pour moi, la voie verte, c'était une voie où, effectivement, on peut faire du vélo, de la marche à pied, du cheval, je crois. Dans la définition, je crois que c'est ça. Mmh. Et puis, il y a le véloroute. Alors, la V85, c'est plutôt une véloroute, non ?
Mais non, c'est normalement un trait qu'ils ont fait, qui est cette V85. Et là où ils peuvent utiliser des voies ferrées, ils les utilisent. Mmh. Sauf qu'on a une portion alors qui est occupée par le vélorail. Et alors, juste à la fin du vélorail, repart la V85 sur à peine 2 km. Et elle devait continuer pour aller jusqu'à Sauclire.
Donc en fait, il y aurait, oui c'est ça en fait, il y aurait un tronçon de la V85 qui serait en voie verte entre grosso modo Tournemire et c'est ça ?
Une voie partagée en montant par le Viala du Pas-de-Joux.
D'accord, ok. Alors, en préparant cette émission, j'ai vu que la France était la première destination du tourisme à vélo, avec des enjeux à la fois écologiques, effectivement, on est dans une transition écologique, surtout avec peut-être le vélo solaire encore plus.
Oui, l'autonomie.
Un enjeu de santé aussi, et un enjeu bien sûr économique, si on devient vraiment une destination touristique. Alors en France, le précurseur, je crois que c'était la vallée de la Loire, sur tout ce qui était circuit cyclo, et puis je pense que le Tour de France aussi, qui est quand même le troisième événement mondial sportif vu, en tout cas à la télé. Il fait beaucoup en termes d'image, et du coup, voilà, ce succès des voies vertes s'explique aussi par cette sécurité et puis cette pratique.
Et en plus, c'est une tête d'affiche. Quand vous avez, par exemple, la Via Rona, des gens, ils se disent, je vais faire la Via Rona. Donc, si on arrive à avoir une voie verte, on peut dire performante, enfin, qui soit vraiment, qui ce soit pas que de la route partagée, ça nous attirera des touristes. Et alors, il y a quelque chose quand même qui est important, c'est que dès qu'on franchit le Larzac, après Sauclière, qu'on descend vers le Vigan, là, il y a des voies vertes qui sont dans un état, c'est mieux qu'une autoroute.
Et alors, le département de l'Aveyron est acteur aussi, non, je crois, dans l'aménagement. Où c'est qu'on en est en Aveyron ?
Alors, l'Aveyron, c'est pas que c'est compliqué, mais bon, la voie verte traverse l'Aveyron, le conseil départemental a été pris plus ou moins en charge. Et puis, comme cette voie verte passe pas mal sur la Comcombe, l'Arzac-Vallée, ils auraient été du bébé. Et donc, moi, j'ai pris contact avec vu que je suis élu à l'hospitalier de Larzac, j'ai pris contact avec l'AF3V, et on peut avoir des budgets. Seulement, c'est comme tout aujourd'hui, moi je m'aperçois en tant que conseiller municipal, si on n'a pas de budget, on ne fait rien. Et là, on pourrait aller chercher des budgets, mais il faut avoir quand même aussi une volonté de la Comcom.
Ok. Ben merci Jean-Marie pour ces explications. D'autres choses que tu aimerais rajouter, non, peut-être ou... J'ai compris que tu étais une sorte de géotrouve-tout, c'est toi qui l'as dit. Et moi, je pensais professeur Tournesol sur le vélo solaire.
Géotrouve-tout, alors non, plutôt on m'appelle le borné, parce que je pose des bornes.
Ah, il y a ça aussi.
Ouais, les bornes de la route mondiale, mais là, je crois que ça ne sera pas...
Ça pourrait être un sujet qu'on fera à la radio aussi. Ouais. Alors, le Gravel, donc oui, Thomas, tu parlais, entre autres, du Wishuan Mio Grand Causse, qui est une épreuve de, on pourrait dire, de Coupe du Monde, puisque c'est dans l'UCI. Et du coup, je regardais, l'année dernière, c'est Dorian Godon qui avait gagné, qui vient de gagner 2 étapes là sur le Tour de Romandie. Mmh. Donc, on est vraiment dans une pratique professionnelle. Mais le Gravel, c'est pas que ça, c'est pas que cette pratique sportive, compétitive. Alors, c'est plutôt une mode ou c'est vraiment une nouvelle pratique ?
Je pense qu'il y a un peu des deux, qu'il y a un effet mode et un effet nouvelle pratique. Je pense que la compétition va peut-être être plutôt un effet mode, où là, des pros vont essayer de faire ça parce qu'on en parle, mais que la pratique perdurera à travers le durable, c'est-à-dire à travers le voyage et à travers l'entretien des sentiers. Et c'est pour ça aussi que c'est important de voir le gravel dans sa globalité, parce que le gravel est un vélo en fait idéal pour le voyage.
Alors ce matin, je disais, mais bon, c'est un peu une caricature, c'est un vélo qui est entre le VTT et le vélo de route, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est quoi vraiment les caractéristiques du vélo gravel ?
Alors, c'est à peu près ça, hein, c'est entre le VTT et le vélo de route. Pour l'imaginer facilement, en fait, un vélo gravel, on va prendre un vélo de route et on va faire un cadre un peu plus large pour pouvoir rentrer des pneus et des roues plus larges qui nous permettront de rouler avec ce vélo sur les chemins. Et donc, le fait d'avoir des pneus plus larges, c'est aussi plus de confort, plus d'adhérence, et ça nous permet d'aller à peu près partout. Ceux qui ont connu au tout début du vélo vraiment la randonnée, c'était un peu l'équivalent des cyclo-randonneurs, mais à un peu plus sportif aujourd'hui.
Alors, on est sur le Larzac, ça semble être un endroit peut-être idéal même pour les grandes causes d'une manière générale. On le voit, le parc naturel régional fait beaucoup de promotions autour du gravel. Les autres, c'est le groupe Eto qui arrive. Voilà. C'est Magali Ramadier qui nous rejoint. Donc, la troisième invitée. Merci Magali d'être venue. On va parler de vous un petit peu, mais avant de terminer, voilà, donc sur les Grands Causses, en tant que lieu de pratique du gravel.
Effectivement, c'est idéal parce que ce que recherchent les pratiquants du gravel, c'est en fait d'avoir des pistes, des grands sentiers, sans trop de voitures et avec des beaux paysages. Donc ici, on est idéalement servi à ce niveau-là.
Alors voilà, Magali Ramadier vient de nous rejoindre. Alors, On parle un petit peu de nos pratiques, enfin de leurs pratiques personnelles, même si moi j'en pratique un petit peu de vélo, mais bon, pas à ce niveau-là. Vous, donc déjà, vous êtes membre de Nantes en Transition.
J'ai participé à la commission mobilité.
À la commission mobilité, qu'on avait invité sur une actu sur un plateau où justement on avait parlé de la mobilité. Alors aujourd'hui l'émission, c'est vrai qu'au départ on devait parler de mobilité, puis bon, on a eu cette opportunité d'avoir trois personnes qui pouvaient nous parler vélo, donc effectivement on s'est consacré sur les pratiques cyclo. Alors vous, on est sur une pratique un peu particulière, c'est de la grande randonnée.
Oui, je pars au début juin en Norvège, je vais en voiture jusqu'à Oslo. Et ensuite, je pars au Cap Nord en vélo, un vélo musculaire.
C'est pas votre première aventure, je crois.
Si, c'est ma première grande aventure, on va dire ça comme
ça. Mais vous pratiquez, vous êtes pratiquante habituelle de vélo ?
J'ai toujours fait du vélo dans ma vie.
Alors, derrière ce Oslo Cap Nord, il y a derrière un message, une action de solidarité, je crois.
Il y a un projet de faire des petites vidéos pour les gens qui sont seuls, qui sont un peu isolés. Et pour essayer de récolter de l'argent pour une association qui s'appelle la Chrysalide, qui est une association pour handicapés, et à mon frère handicapé.
Alors, on va refaire un petit tour de table. Alors, pourquoi le vélo, Jean-Marie ?
Mais le vélo, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le monde dans lequel on est, il faut faire un peu le colibri, quoi. Donc, moi, je pense que j'ai eu mon quota carbone dans toute ma vie. Et donc, et puis, voyager à la vitesse du regard, c'est extraordinaire.
Thomas.
Pourquoi le vélo ? Parce que la liberté, parce qu'on peut voyager par ses propres moyens, il suffit de s'y connaître un tout petit peu en mécanique, et puis ensuite chacun a son rythme, choisit ses étapes, et on peut aller où on veut, et ça c'est génial.
Et Magali, alors ?
Le vélo parce que c'est un moyen de transport qui est accessible à tout le monde, et c'est un moyen qui est en rythme avec le corps humain, je trouve, et en même temps on est dans le défi avec soi. Et on observe la nature, on entend la nature et on est en communion avec elle, quoi.
Alors, je parle vraiment d'aventure. Enfin, pour moi, c'est une aventure. Hein. Oslo Cap Nord, je ne peux même pas imaginer ce que ça peut être. Comment ça se prépare ?
Ça se prépare à ma façon, c'est-à-dire que ça ne se prépare pas. Ah. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'aventure. C'est-à-dire que je pars, mais je me laisse porter par l'aventure du voyage. Donc, je sais que je vais au Cap Nord. Je sais que j'ai passé par les îles Lofoten et après je vous raconterai au retour ce que j'ai fait.
Alors ça c'est la préparation géographique, je dirais, mais physiquement quand même.
Je me suis préparée, mais en fait j'ai une capacité physique assez exceptionnelle puisque j'ai un cœur qui bat à 42.
Ah oui.
Donc j'ai un corps de sportive.
Mm-hmm. Et vous avez toujours fait du sport ou...
J'ai toujours fait du sport, mais en pas sachant que j'avais un cœur qui battait si lentement et les capacités que je pouvais avoir. Du coup, je me rends compte quand je m'entraîne, j'ai pas beaucoup besoin d'entraînement en fait. Et je vais m'entraîner pendant que je voyagerai, parce que je pars pour 4 mois, 4-5 mois. Quoi.
Alors vous avez choisi le musculaire. Jean-Marie nous parlait de l'électrique sur... donc pareil, il y a des voyages longs.
Oui, sur le... Et donc, moi, j'ai un cœur qui n'est pas le même que Magali, donc je me fais aider du soleil. Voilà.
Alors, des vélos que tu fabriques toi-même ?
Mais ce n'est pas que je le fabrique, c'est que ça ne se vend pas. Donc, il faut l'assembler. Donc, je travaille avec une marque de vélos de Lettonie, qui sont vraiment des gens qui font un super vélo, c'est Speedback Technique. Après, je travaille avec des moteurs libres de droit, parce que je veux pouvoir démonter, réparer mon moteur. Ce qui est aujourd'hui dans les moteurs qui sont vendus à le commerce, c'est pas la peine. C'est tout encapsulé, c'est comme les voitures, quoi. Ils nous ont maqué avec les voitures, ils nous maquent avec les vélos électriques. Et après, avec un petit boîtier qui vaut 40 euros, on passe du panneau solaire directement dans la batterie.
Et alors, sur un vélo... Non, je pensais à Magali, donc bon, ok, elle ne veut pas de solaire, elle ne veut pas d'électricité.
Non, c'est pas que je ne veux pas, c'est qu'en fait, je ne veux pas avoir la charge mentale de savoir où est-ce que je vais me charger.
Du coup, c'est le vélo qui charge, en fait, c'est ça ?
Oui, mais je ne me suis pas mis en lien avec Jean-Marie pour ce projet-là.
D'accord, non, ce n'était pas l'idée de ma question, mais il faut quand même un vélo particulier, non ?
J'ai pris le vélo que mon mari m'avait offert pour mes 50 ans avec un col cygne pour justement être facilité d'accès parce que je me suis cassé le col du fémur. Donc comme ça, je me sens libre avec le vélo. Et je l'ai fait aménager par ABC Cycle à l'hôpitalier de Larzac où il m'a réduit un petit peu le poids. Donc il a changé la fourche, enfin, certains éléments. J'ai qu'un plateau, j'ai 11 vitesses. Et voilà, je pars à l'aventure.
Toba, la vision du sportif, là, c'est...
Alors moi, pour mes voyages, déjà, j'ai voyagé en gravel et sur les voyages, je n'étais plus vraiment un sportif. Alors, je me mettais des défis personnels, des fois faire plus de 200 km dans la journée, des choses comme ça. Mais c'est parce que j'avais envie de me mettre des défis et comme vous le disiez, c'est se mettre des défis, le voyage à vélo. Mais chacun doit se préparer pour son voyage. Moi, ce que je conseille avant tout, quand même, si vous partez sur un voyage à vélo, c'est de bien connaître le vélo, bien connaître votre véhicule, savoir le réparer. Et quelque chose qui est très important, que certaines personnes ont tendance à oublier avant de partir en voyage, c'est le temps de selle. Voilà. C'est compliqué de rester 10 heures par jour sur une selle. Ça fait mal, ça peut faire très mal. Donc ça, c'est quelque chose à préparer aussi.
Alors, moi, j'ai trouvé le système pour ne pas avoir ce problème de selle. Je roule en vélo couché.
Bien vu.
Voilà, donc vous savez qu'on a un guidon, on conduit d'une main, on fait du téléphone de l'autre, ça je ne l'ai pas dit, mais bon, c'est quand même utile pour se guider. Et donc, c'est vrai qu'un vélo couché, on est dans un fauteuil. Et alors, ce qu'on guette, c'est de voir arriver un papillon qui rentre dans le vélo et qui ressort sur le côté. Et ça, c'est de la magie.
Alors, Jean-Marie, puisque tu as la parole... Au-delà de ta pratique personnelle, effectivement, je vois que tu as engagé ta commune, puisque tu es conseiller municipal, Hospitalet, vers une transition écologique, vers le vélo aussi.
Oui. Alors, mes connaissances depuis 10 ans dans l'électrification des vélos, on a acheté un vélo cargo qu'on a transformé en solaire pour l'employé municipal quand il fait des petits déplacements sur la commune. Ne serait-ce pour aller débroussailler et tout, donc il met tous les outils dedans et du coup il n'utilise pas une voiture et ça a un autre rôle, c'est que quand on a un renfort l'été qu'il y a deux employés municipaux, à l'époque ils n'arrêtaient pas de faire des allers-retours avec les voitures, ils viennent me chercher, tandis que là ils sont autonomes avec un vélo cargo solaire, à recharge solaire.
On n'a pas parlé argent, mais c'est quoi le coût d'un équipement ? Enfin, tout à l'heure, tu as donné tu as pris 40 euros, la petite boîte qui transforme l'électricité solaire en...
Mais là, c'est un vélo cargo d'occasion, avec un moteur Bafang, et qui se recharge avec un panneau solaire qu'on a mis sur... Comme ils ne font pas beaucoup de kilomètres, et puis que quand ils vont tondre, le vélo reste au soleil, donc un petit panneau de 100 watts suffit largement à ce que le vélo soit on peut dire, autonome.
Non, on parle en watts, moi je voulais parler en euros. Mais...
Ah, en euros, eh bien, le vélo, on l'avait acheté d'occasion, 3000 euros, et puis le panneau solaire, c'était 200 euros que je l'avais fait. Ben, voilà. Et on a été pris en charge par la région, on a eu un petit chèque de la région.
Bah oui, parce qu'ils prônent le changement, enfin la transition justement écologique. Un budget là ou pas sur la grande aventure, ou c'est comme le reste, on verra.
On verra.
Ouais.
Oh, et un petit budget au niveau du vélo, parce qu'il a fallu à peu près 1000 euros d'investissement pour le mettre un peu plus léger. Et puis je pars avec une petite remorque derrière, plutôt que des sacoches. Et puis après, ben, la vie en Norvège, elle est élevée. Mais bon, je campe, je vais camper.
Oui, peut-être que les habitants seront accueillants.
Alors, c'est un pays, c'est la quatrième fois que je vais en Norvège, et c'est un pays qui est très sportif, déjà d'une part, et puis le relationnel est facile. Et en tant que femme, pour voyager toute seule, c'est assez confortable.
Le budget d'un vélo gravel?
Ça commence autour des 1000 euros, en gros, et puis ça va après sur du haut de gamme jusqu'à 5-10 000, mais ces vélos-là ne sont pas vraiment faits pour du voyage.
Et alors, quand on a un gravel et qu'on veut l'aménager justement pour faire de la rando, c'est facile ou c'est... faut bricoler, faut être un géotrouve-tout comme Jean-Marie?
C'est ça l'avantage du gravel et je pense que c'est ce qui a fait sa popularité, c'est que ce sont des vélos qui sont prévus pour pouvoir monter des porte-bagages avec des pneus assez larges et donc on peut assez facilement partir sur du voyage en s'équipant simplement de bagages en fait.
Je sais pas, vous avez d'autres choses à rajouter, non? Tous les trois, hein?
Alors l'hospitalier du Larzac, là où s'arrête actuellement la V85, on a une station de réparation avec gonfleur, lavage, voilà. Il y a c'est la Comcom qui a financé ce type de produit. Et donc, parce que c'est un but aussi de développer, on peut dire, cette mobilité de voyage, parce qu'il y a les gens qui s'équipent, mais après il faut pouvoir accueillir les voyageurs.
Et alors justement, tous les trois, là, en tant que pratiquants, enfin, déjà tu viens de donner un peu ton avis, Jean-Marie, mais est-ce que vous sentez que les collectivités territoriales prennent à bras le corps justement ce développement, ou vraiment s'occupent de ce développement de l'activité vélo?
Moi je pense à mon niveau qu'on est vraiment en retard.
Un retard par rapport à qui? Par rapport à...
Par rapport à l'automobile en fait. On va dépenser des budgets encore incroyables sur des ronds-points, sur des ponts, sur des routes, alors qu'une piste cyclable ça coûte pas si cher que ça, et qu'encourager tout le monde à faire du vélo, ce sera bénéfique pour le local et aussi pour la santé.
Moi j'ai envie de dire aussi que les automobilistes, ils apprennent à respecter les vélos sur les routes et à pas les frôler. Parce que c'est vrai que quand vous êtes à une petite vitesse et qu'il y a une voiture qui passe proche de vous à 80 km/h, ça peut faire peur. Et en fait, c'est juste de l'éducatif, quoi, de l'information à partager.
Et alors, comme on devait parler de mobilité, donc le vélo, effectivement, c'est une des mobilités possibles en milieu rural, mais pas toujours facile, justement, parce que les routes ne sont pas forcément adaptées, parce que c'est étroit, parce qu'il y a des côtes, parce que les revêtements ne sont pas toujours au top.
C'est pas pris en compte, en fait, le vélo aujourd'hui. C'est un peu pour des bobos, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est quand même un moyen de transport qui fraternise, en fait. Parce que quand vous vous croisez, vous dites bonjour comme les motards, quoi, en fait, c'est ça. Et c'est vrai que dans nos campagnes, on n'a pas besoin toujours de la voiture, quoi.
Il existe une solidarité intercycliste ou...
Bien sûr, surtout entre voyageurs particulièrement, où on ne va pas laisser quelqu'un sur le bord de la route arrêter à réparer son vélo. On s'arrête automatiquement pour lui demander si ça va, s'il a besoin d'aide, parce qu'on prend ce temps, parce que c'est important aussi de considérer l'autre.
Ah oui, c'est parfait. Et puis, un vélo classique, ça déjà attire le regard. Mais un vélo solaire, c'est un passeport de voyage.
Un plus couché. Ouais. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Jean-Marie, tu es arrivé avec un dépliant, la route mondiale, symbole historique depuis 1945, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
On est en période de guerre, donc du coup, ça redevient important peut-être. Tu peux nous expliquer?
Alors, comment j'ai découvert ces bornes? Je voyageais beaucoup, j'avais un ami à Cahors, et j'allais à Cahors, et sur la route, pas loin de Cahors, sur 30 km, il y a 7 ou 8 bornes. Des bornes sur lesquelles il y a marqué Moscou, New York, New Delhi. Alors quand tu es en vélo, que tu vois New Delhi, ça te fait rêver, quoi. Je faisais des photos. Et un jour, je suis monté esprit en haut de Saint-Cyr-la-Popie pour faire une photo. Et là, il se trouve que la borne n'y était plus. Il l'avait enlevée pour faire des parkings. Parce que Saint-Cyr-la-Popie, il est tellement beau ce village. C'est le plus petit village de France avec le plus grand nombre de parkings. Donc, je me suis dit, vu qu'ils ne veulent plus la borne, je vais mettre une à l'hospitalier. Il m'a fallu 3 ans pour arriver à planter une borne à l'hospitalier. Et alors, on a balisé l'Aveyron de Bouillac, qui est à la suite du Lot, dont on a fait les extrêmes. Et là, bon, je peux le dire parce que ça ne va pas être une surprise, mais c'est le samedi de l'Ascension, là, on va présenter la borne de Sauclière. Et donc j'ai Marie-Joëlle Leray, la médiathèque de la, la responsable de la médiathèque Larzac-Vallée, a été séduite par le projet. Et l'intérêt, et là c'est là où je retombe sur la V85, c'est qu'en gros, on va baliser avec une déviation, on peut dire, pour le cyclotourisme, l'Hospitalet et Sauclière, qui seront deux villages qui auront une borne à la route mondiale, pour aller après, plus loin, je dois poser une borne aussi à Marseille, et ça va être la direction de l'Est. Voilà, donc la route mondiale, c'est routemondiale.fr, il y a toutes les explications.
Et puis un gros symbole sur la paix, effectivement.
C'est d'actualité.
Ben oui, hélas, ça, ça devrait toujours l'être, mais... Voilà, bah écoutez, merci à tous les trois. Magali, on vous souhaite une belle aventure.
Oui, merci, je vous remercie.
En tout cas, vous avez l'air hyper optimiste, donc tout va bien.
Oui, aller en Norvège, c'est mon pays de cœur, donc ça, c'est facile pour moi.
Thomas, on te souhaite une belle aventure plutôt économique avec la création de cette entreprise.
Merci.
Dont on rappelle le nom.
Le goût du vélo.
Le goût du vélo. Et Jean-Marie, ben, bravo pour tous ces projets et pareil, hein, un espèce de succès pour la V85 et pour la route mondiale. Il va être bientôt 18h30. Je vois que la Peña des Templiers, une véritable ruche autour de nous. On voit les saxos qui sont de sortie, les cuivres, les trompettes, les caisses claires. Ça bouge, ça bouge. Ah ben tiens, mais justement, un grand verre, un cyclo derrière qui passe là-bas. Comme par hasard.